Radio Okapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba.
L'assainissement de la ville de Kinshasa, une affaire de tous. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa interpelle ses administrés à ne pas polluer les cours d'eau pour éviter des inondations à l'instar des celles vécues lors de la pluie d'hier samedi. Vous le suivez tout de suite en ouverture de ce journal. Après échange avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la crise entre le syndicat des enseignants et le gouvernement au point de se dénouer, Cécile Tshiombo, secrétaire générale du CIECO, confiante aux engagements du bureau de la Chambre basse, invite ses pairs à regagner les salles de classe. Thérèse Koulungu, membre du conseil d'administration de la Fondation Panzi, invitée de ce journal, insiste pour l'effectivité en RDC de la justice transitionnelle en vue d'amener les victimes des violences sexuelles à obtenir justice et réparation. Nous parlons de tous ces faits d'actualité et bien d'autres tout de suite sur diverses fréquences de Radio Okapi. À toutes et à tous, excellente condition d'écoute de votre journal. Amis à l'écoute, bonsoir. La population doit s'imprégner de la politique d'assainissement de la ville évitant de jeter les immondices dans les rivières. C'est ce qui ressort de la réunion de crise d'urgence tenue samedi tard dans la soirée par le gouverneur de la ville province de Kinshasa. C'est à la suite de la pluie diluvienne qui est tombée hier dans la capitale provoquant des inondations dans plusieurs quartiers et causant la mort d'un enfant de 2 ans. On écoute Daniel Bumba dans cet extrait choisi par Étienne Lissumbo.
Donc, à l'issue de cette rencontre, pour mettre en place un plan d'urgence pour gérer l'inondation.
À l'issue de cette rencontre, nous avons mis en place un plan d'urgence pour gérer les inondations, mais également nous appelons à tous les Kinois qu'ils soient en synergie avec nous. Nous déplorons quand même un cas de décès d'un enfant de 2 ans. Nous avons compris que par manque de respect des injonctions que l'État nous donne sur l'évacuation des emprises, voilà comment c'est l'occasion des morts. Dans les jours qui viennent, nous allons nous imprégner dans les travaux de curage que nous avons commencé et qui continuent, parce que nous avons constaté que le temps d'évacuation des eaux a diminué. Et cela n'était pas fait, peut-être la situation allait être pire. Là où ça demande 8 heures du temps, en 2 heures, les endroits étaient dégagés. Nous demandons aux Kinois de comprendre l'importance de ne pas jeter les immondices dans des rivières. Dans un avenir proche, un déploiement des bacs à poubelles sera à la disposition de la ville.
Toujours parlant des dispositions à gérer la ville de Kinshasa, cette fois-ci au niveau du gouvernement central. La présence des policiers dans les différentes intersections figure parmi les mesures prises au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier pour remédier au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres lu par la ministre de la Culture et Art Yolande Elébé, ces mesures devraient entrer en vigueur à partir de cette semaine. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hongumchinge.
56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés. Pour y remédier, les mesures suivantes ont été proposées. 1. La présence des policiers dans les différentes intersections. 2. Prévoir des routes dédiées à sens unique selon l'affluence des véhicules sur les principales artères. 3. La Commission nationale de prévention routière et l'Office des voiries et drainages ont mené une étude sur la manière de procéder à une circulation alternée qui sera implémentée dès la semaine prochaine. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, les responsables des services précités ont été invités à éclairer le Conseil sur les modalités de la mise en œuvre de ces mesures.
Dans la province du Maniema, sur 98 sources d'eau ciblées par l'Office national de l'hydraulique rurale, 26 sont adoptées par les parties prenantes sur les 30 attendues. Selon le coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR, les 4 autres sources seront ciblées et validées dans le territoire de Kabambar. L'objectif de ce projet est de permettre aux communautés d'avoir accès facile à l'eau potable. On écoute Alphonse Mata au micro de Florence Kiza.
Nous avons fait un travail avec les parties prenantes pour essayer de valider un certain nombre de sources suivant les critères qui ont été fixés d'une part par le programme et d'autre part aussi par l'assistance. Donc sur les 98 sources qui ont été identifiées dans l'ensemble de la province, on a adopté ou on a validé 26 sites qui seront réhabilités. Pour le moment, nous sommes arrêtés à 26 parce que les travaux d'identification d'identification n'ont pas encore eu lieu dans les territoires de Kabambare. Comme l'ONHR va continuer son travail dans les territoires de Kabambare, sur les sources qui seront identifiées, nous allons faire encore un travail pour adopter 4 qui seront réhabilités pour faire le nombre de 30 dans l'ensemble de la province du Maniema. L'objectif ici, c'est de donner accès à la population à l'eau potable. Donc, comme Padé traite du développement en général, nous savons qu'un homme qui doit se développer doit aussi être en bonne santé pour être en mesure d'exprimer la totalité des potentialités que Dieu lui a données.
Voyons à présent l'actualité dans la province de l'Ituri. La chefferie de Banyali-Tchabi dans le territoire d'Irumu est sans réseau de téléphonie mobile depuis 4 mois. Cette région, pourtant en proie à l'activisme des rebelles des ADF, est abandonnée sans aucun moyen de communication téléphonique, affirme Étienne Bagayao, représentant de l'autorité coutumière. C'était lors de la visite d'une délégation de la MONUSCO sur place cette semaine. Étienne Bagayao explique le calvaire des populations micro des Sadiki Aboubakar.
Il y a un grand problème au niveau de la communication parce que nous n'avons pas l'antenne au niveau de la chefferie pour mieux communiquer avec les autres. Il y a une petite antenne Vodacom qui alimente à travers les panneaux solaires, mais ce n'est pas opérationnel et il y a une panne. Ça fait presque 4 mois. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement central de sonder à nous la conséquence sur les plans sécuritaires. L'ennemi peut arriver brusquement pour attaquer la population, soit nos forces armées. Il n'y a pas moyen d'alerter pour une intervention. C'est un grave problème.
Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu avoir la réaction de la société de télécommunication Vodacom Bounia à ce sujet. Enseignement, les revendications salariales des enseignants sur le point de trouver satisfaction grâce à l'implication du président de l'Assemblée nationale qui appelle Lucie Eko à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. Vital Kamere a eu hier samedi une séance de travail avec une forte délégation du syndicat des enseignants du Congo Sieko, conduite par Cécile Chiyombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central Jonas Chundu et Maneno Riziki. Les échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes ne lui permettant plus d'exercer décemment et dignement son travail. C'est Cécile Chiyombo au micro de Michel Kifinda.
L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école sur toute l'étendue de la République. Nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle.
Tout en saluant la bravoure des élus et le sacrifice des enseignants congolais, le président de l'Assemblée nationale a invité les experts du CIECO à travailler avec la Commission économique et financière dans l'examen approfondi du projet des lois des finances 2025. Occasion pour le CIECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il faut noter que cet exercice sera prolongé au syndicat des médecins et l'intersyndical des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invité en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi des finances 2025. 18h09 à Kinshasa, merci de la confiance portée à Radio Okapi pour vous informer. Le président angolais a eu samedi les conversations téléphoniques avec le président angolais Félix-Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, annonce l'agence angolaise de presse. En particulier, Lorenzo a abordé avec ses deux homologues les derniers développements dans le cadre des efforts en cours dans le cadre du processus de Luanda, mais aussi des prochaines étapes visant en trouver une solution durable à la crise qui frappe la région orientale de la RDC. L'actualité nous amène à présent dans la province du Nord-Kivu où un lien unique se tisse entre civils et militaires. Au-delà des collaborations dans la recherche de la sécurité, ce sont les liens familiaux qui renforcent la confiance. Il s'agit des liens de mariage entre militaires et filles de la communauté. Comment ces mariages contribuent-ils à rapprocher ces deux mondes? Des leaders locaux sont revenus sur le sujet à l'occasion d'une rencontre organisée samedi à Goma par les membres des cellules de paix et de développement des quartiers de Goma. Tout en encourageant ces unions, ils plaident pour l'amélioration des conditions sociales des militaires, comme nous le dit Rosalie Zawadi.
En épousant une femme du quartier, un militaire tisse des liens de proximité avec toute sa communauté, expliquait Madame Emérance Wabingwa, première vice-présidente du CPDKI du quartier Mabanga Sud. Ces unions contribuent aussi à désamorcer les tensions et à renforcer la sécurité, ajoute Madame Nihibizi Akilijane, conseillère municipale en ville de Goma.
Par exemple, une fille se marie à un militaire. La fille peut sensibiliser l'homme d'avoir des bons comportements. Et la femme aussi, quand elle part chez elle, dans la famille, elle montre combien de fois être militaire, ce n'est pas être ennemi, ce n'est pas être un démon, mais c'est un homme comme les autres.
L'un des facilitateurs de la rencontre, M. Fidel Andera, invite la communauté à encourager ces mariages, car il en va de l'intérêt de tous.
C'est à nous aussi de bien gérer ces relations-là, là où les militaires viennent épouser nos sœurs. C'est triste ces derniers temps, nous trouvons que nos sœurs ne sont plus assez prêtes à prendre en mariage des militaires. Mais si nos militaires n'épousent pas nos sœurs, faisons attention, il y a un risque qu'ils épousent les filles de nos ennemis et que demain nous en pâtissons.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À Goma, trois individus suspectés de vol ont trouvé la mort dans un acte de vindicte populaire perpétré par des habitants en colère. Les faits se sont déroulés samedi après-midi dans le quartier Majengo, à l'endroit communément appelé Trois Lampes. C'est selon les témoins, ces voleurs ont opéré en plein jour dans une maison de vente des téléphones et crédits des téléphonies mobiles. Tout en condamnant cet acte de justice populaire, quelques leaders de ce quartier pensent qu'il reflète un sentiment d'impuissance face à l'insécurité grandissante et à la lenteur de la justice. Pour eux, la persistance de l'impunité encourage malheureusement ce type de dérapage. Dans le territoire de Beni, toujours dans le Nord Kivu, 12 ans déjà que trois prêtres et une sentinelle avaient été enlevés dans la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbaou la nuit du 19 octobre 2012. Mbaou est une localité située à 20 km de la ville de Beni. 12 ans après, aucun signe de vie. En leur mémoire et en mémoire des autres victimes de l'insécurité dans la région, une messe a été dite ce samedi 19 octobre à Mbaou. Un événement malheureux qui reste aujourd'hui encore gravé dans le cœur des familles de ces serviteurs des dieux. Hélène Kassassia pour un point complet.
C'était dans la nuit du 19 octobre 2012 que des hommes armés surgirent dans la paroisse Notre-Dame de Pauvres de Mbaou. Ils emportent avec eux le prêtre Anselme Wasukundi, Edmond Kisouhou et Jean-Pierre Ndoulani, mais aussi la sentinelle de la palmeraie de Mbaou. Un événement qui a laissé une marque indélébile dans les cœurs de famille de personnes enlevées. Dieudonné Kassereka Kisouhou, jeune frère au père Edmond Kisouhou, explique.
Cet événement nous est arrivé comme un coup de tonnerre. Il nous a beaucoup touchés. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas s'ils sont réellement morts ou peut-être qu'ils reviendront. Que le gouvernement nous aide à faire des investigations pour les retrouver parce que nous avons encore besoin de nos frères. 12 ans après, nous ne faisons qu'attendre, nous ne faisons que pleurer. Il y a 4 ans aujourd'hui que maman est décédée d'une crise de tension parce qu'elle y pensait chaque fois. C'est très douloureux.
Jusqu'ici, les conclusions des enquêtes menées par l'Église catholique du diocèse de Butembo-Beni ne sont pas encore connues. Le chef du secteur de Beni-Mbaou a annoncé pour bientôt la construction à Mbaou même d'un mémorial en l'honneur des trois prêtres. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Santé, lutte contre la propagation de l'épidémie de la variole de singe. Le Haut-Katanga n'a enregistré aucun cas. Pour cela, le ministre provincial de la Santé invite toute la population à observer les mesures barrières et à être vigilante pour préserver la province. Le ministre Joseph Sambibulanda a donné toutes ses précisions au micro de Jean-Yandou Kabongo.
Depuis le début de l'épidémie, la province a enregistré 54 alertes et prélevées, envoyées à l'INRB, 52 résultats sont négatifs et 2 résultats indéterminés, ce qui fait que à ce jour, la province n'a aucun cas de Mpox confirmé, ce qui prouve que la stratégie mise en place fonctionne bien, et nous appelons encore une fois de plus à toute la population, à tous les intervenants, de redoubler d'efforts pour sécuriser la province contre l'envahissement de cette maladie. Déjà, les provinces voisines comme la Lomamie, le Tanganyika ont déjà notifié des cas. Merci encore une fois de tenir et de sensibiliser sur le Mpox.
Actualité internationale.
Au Mozambique, l'avocat de l'opposant Venancio Mondlane a été abattu avec son parti à Maputo, la capitale, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti politique Podemos le 9 octobre dernier. L'avocat Elvinho Dias, du leader d'opposition, a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ses élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme s'était récemment dit inquiet pour sa sécurité. Et puis, des hommes d'affaires des pays des BRICS se sont réunis vendredi à Moscou pour partager leurs réflexions sur la croissance économique lors du Forum des affaires des BRICS, l'une des dernières réunions des BRICS avant le grand sommet qui se tiendra dans la ville russe de Kazan la semaine prochaine. Dans son discours, M. Poutine a souligné que le PIB des pays des BRICS a dépassé 60 milliards de dollars américains l'année dernière, ce qui représente environ 37,4% du PIB mondial, soit plus que les 29,3% des pays du G7. Il a prédit que l'écart se creusera inévitablement.
L'invité.
Ça a été dit dans le sommaire. Thérèse Kulungu, membre du conseil d'administration de la fondation Panzi basée à Bukavu dans le sud Kivu, a reçu depuis quelques jours de l'organisation Mère pour la paix France le prix Femme de paix 2024 à Lille en France. Invitée de Radio Okapi, cette lauréate explique qu'elle a été récompensée pour ses efforts dans la défense des droits des victimes des violences sexuelles dans l'est du pays. Ainsi plaide-t-elle pour la mise en œuvre de la justice transitionnelle dans cet entretien avec Blaise Nongala.
Bonjour Madame Thérèse Kulungu.
Bonjour.
Vous avez reçu le prix des femmes de paix 2024 il y a quelques jours à Lille, en France, de la part de l'organisation Mère pour la paix France. Quel est le sens que vous donnez à cette récompense internationale?
L'organisation Mère pour la paix France a organisé le congrès sur la force de la femme. Elle fêtait leur 30e année d'existence. Et c'est dans ce cadre que cette organisation m'a invité pour m'honorer. Je suis l'initiatrice des cliniques juridiques de la Fondation Panzi depuis 2009. L'objectif, c'était de briser le silence. C'était de permettre à ces femmes de retrouver leurs droits.
Madame Thérèse, si je comprends bien, le prix appartient plutôt à la Fondation Panzi.
Non, pas qu'à la Fondation Panzi, mais... Et à cause du travail que j'ai effectué pendant longtemps à la Fondation Panzi depuis 2009.
Dans cette clinique, qu'est-ce que vous faites exactement?
Dans cette clinique, on accompagne les victimes de viols, violences sexuelles et violences basées sur le genre. Disons, les femmes qui arrivent dans ces cliniques sont accompagnées d'une manière juridique et judiciaire. Il y a là des juristes qui sont, il y a les assistantes sociales qui les accompagnent pour toute la procédure devant les tribunaux.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir ou comprendre exactement du prix Femmes de paix?
Femmes de paix, c'est une organisation qui travaille sur la paix. Comme la Fondation Panzi, avec leur leader qui est le docteur Mukwege, œuvre pour la paix. Et non, travaillons sur les violences sexuelles. Mais le docteur Mukwege est presque le promoteur de la justice transitionnelle en RDC.
Que représente une telle récompense pour vous d'abord et pour toutes les femmes congolaises?
On me reconnaît comme une femme de paix à cause du travail que je fais. Quand les femmes ont recouvré leurs droits, leur dignité, et j'ai accompagné ces femmes, et je continue à les accompagner jusqu'à aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, même dans les plaidoyers que nous menons sur la justice transitionnelle, sur la mise en place des mécanismes de la justice transitionnelle. Donc je suis actrice de la paix
Après ce prix, Madame Thérèse Kulungu, quelle est la place que vous donnez à la lutte contre les violences sexuelles en RDC?
La lutte contre les violences sexuelles, c'est tout un processus. Donc nous allons continuer la lutte jusqu'à ce qu'on ne parlera plus de ces violences au Congo, dans le but de faire comprendre à la population que l'homme et la femme doivent cohabiter ensemble. L'homme et la femme ont le même droit et l'homme doit regarder la femme comme son semblable et non comme un être inférieur.
Au lendemain de la remise de cette récompense, quel est le message que vous pouvez lancer d'abord à vos semblables femmes et aux autorités congolaises et à toute la population de la RDC?
Dans cette guerre, c'est la femme qui est la cible. Souviens-toi que le viol a été utilisé ou continue à être utilisé comme arme de guerre. Alors pour mettre fin à tout ça, nous réclamons la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Nous demandons aux autorités congolaises de manifester une volonté pour la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle. Bien sûr qu'il y a maintenant les Fonarev, mais on ne doit pas s'arrêter à Fonarev. Ça, c'est un seul aspect. On a créé maintenant une confusion. Les bourreaux d'hier sont les dirigeants d'aujourd'hui. Ils sont dans toutes les institutions, soit ils sont dans la police, dans l'armée, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont partout. Ils créent une confusion. Et mais dans tout ça, ils continuent à traumatiser les victimes. Ça doit se terminer. Nous réclamons la réforme des institutions, c'est-à-dire que ceux qui ont commis des crimes, tous ceux qui sont cités d'une manière ou d'une autre dans différents rapports, que ce soit même les criminels économiques, tous ceux qui sont en train de détourner de l'argent, ils ne peuvent plus normalement prétendre diriger les institutions. Demandons à la population congolaise de prendre conscience.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Thérèse.
Merci beaucoup, Monsieur Blaise.
Et c'en est ainsi fini avec cette édition du journal Vespéral sur Radio Okapi. Amis à l'écoute, nous vous disons merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Okapi. Ce journal vous a été préparé par Alain Hiron, Jacques-Yves Molima et l'ensemble de toute la rédaction. Pierre Diassino a assuré la prise des soins et la mise en onde et Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté.